Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
En route vers les JMJ de 2016 à Cracovie, le pape François a choisi les thèmes des prochaines éditions des Journées mondiales de la jeunesse sur la base de l'évangile des Béatitudes. Vladimir Poutine sera reçu par François au Vatican. Leur tête-à-tête aura lieu le 25 novembre prochain. Une première, catholique, protestant, orthodoxe, musulman et juif s'unissent en Belgique contre une banalisation de la mort. Le Sénat belge réfléchit à l'euthanasie des enfants. Dans cette émission, témoignage d'Angèle Liebi, frappée par un syndrome rare. Son corps ne répond plus, mais elle reste pleinement consciente, notamment de sa douleur physique. « Une larme m'a sauvée », c'est le titre de son livre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine en langue française de Radio Vatican. We're on a mission. Le pape a donc choisi ce jeudi les thèmes des trois prochaines éditions de la Journée mondiale de la jeunesse qui marque les étapes donc de l'itinéraire de préparation spirituelle qui, en 3 ans, mènera à la célébration internationale prévue à Cracovie, en Pologne, en juillet 2016. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Les trois thèmes sont extraits des béatitudes évangéliques. À Rio de Janeiro, le pape François avait demandé de tout cœur aux jeunes de relire ces béatitudes pour en faire un programme concret de vie. « Regarde, lis les béatitudes qui te feront du bien », a-t-il dit lors de la rencontre avec les jeunes argentins dans la cathédrale de São Sebastião le 25 juillet dernier. Une grande première en Belgique, les églises protestantes, orthodoxes, les communautés israélites et musulmanes du pays s'unissent avec les catholiques contre une banalisation de la mort par les législateurs. Les chefs religieux dénoncent une éventuelle extension de la loi de 2002 qui dépénalise l'euthanasie en Belgique. Alors que le Sénat discute en ce moment de l'euthanasie des enfants, les dignitaires religieux publient un communiqué dans lequel ils dénoncent la possibilité pour des mineurs de pouvoir décider de leur propre euthanasie. Il s'oppose aux pressions du corps médical concernant les personnes démentes. Pour les religieux, on ne peut livrer le sort au jugement, voire à l'arbitraire d'un tiers. Les euthanasiés est un déni de leur dignité. Dans ce texte, il regrette enfin que le débat actuel tourne autour de la condamnation des personnes qui souffrent et non pas autour de leur accompagnement. Le communiqué a notamment été signé par Mgr André-Joseph Léonard, président de la Conférence épiscopale de Belgique.
Je pense bien que c'est la première fois qu'il y a une déclaration commune, mais qui se justifie par la gravité du problème et l'empressement d'une partie de la classe politique, l'empressement à vouloir ouvrir plus largement encore la porte. Et j'invite tous ceux qui sont concernés par ces problématiques dans divers pays où c'est d'actualité de faire preuve de vigilance et de toujours argumenter, même s'ils sont habités par une conviction religieuse forte, sur le plan rationnel, sur le plan philosophique. Parce que dans le débat public, seule une argumentation de type rationnel est pertinente. Invoquer sa foi personnelle n'est pas très efficace.
Quels sont ces arguments philosophiques sur lesquels vous vous appuyez ?
Contrairement à ce qu'on laisse entendre souvent, la décision de l'euthanasie n'est pas seulement une expression de la liberté personnelle de l'individu, c'est une demande qui a des répercussions sur la liberté de beaucoup d'autres personnes et qui a des répercussions sur l'ensemble de la perception des grands enjeux de la vie dans toute une société. Donc c'est illusoire de dire « je demande pour moi l'euthanasie, ça ne concerne que moi ». C'est une décision personnelle effectivement, mais qui n'est pas, et loin de là, uniquement personnel. Ensuite, il faut développer l'argument de la solidarité. La vie en société repose sur la solidarité de tous, des plus faibles avec les plus forts, des bien portants avec ceux qui sont malades. Et les solutions actuellement proposées d'élargir l'euthanasie, on court le grand danger de miner ce sens de la solidarité. C'est une sorte de pression exercée sur l'individu, n'encombre pas la société de ta vie vieillissante, de ta vie handicapée, de ta vie abîmée, mais prends des dispositions pour que tu puisses disparaître sans peser trop sur ton entourage. Mais ça, c'est la ruine même de la notion de solidarité, de tous avec tous. Et c'est cela que nous voulons surtout utiliser comme argumentation.
La publication de ce communiqué intervient alors qu'actuellement en Belgique, il y a un véritable débat concernant cette question de l'euthanasie. Un débat houleux où semblent véritablement s'opposer partisans et adversaires de l'euthanasie.
Mais ça, c'est heureux qu'il y ait un véritable débat. Pourvu que ce soit un débat sur le fond, un débat sur l'enjeu principal, il y a toujours le danger, comme on est à peu de temps d'élections nationales et européennes, qu'on fasse des alliances, que l'on débatte dans des perspectives électorales. J'espère que ce débat aura lieu là où il doit se dérouler, bien sûr dans l'enceinte démocratique du Parlement et du Sénat, mais en référence à l'enjeu humain grave engagé dans cette problématique et qui touche non seulement les personnes qui sollicitent l'euthanasie, mais qui touche aussi tout le sens de la profession médicale et paramédicale. L'enjeu, c'est un enjeu de société et c'est à ce niveau-là que le débat doit avoir lieu.
Monseigneur Léonard, président de la Conférence épiscopale de Belgique, était interrogé par Hélène Destombes. Raconter sa souffrance alors qu'elle était dans le coma, en France et à l'étranger, Angèle Liéby cherche à sensibiliser le grand public, surtout le corps médical, pour qu'il manifeste plus d'attention aux personnes non communicantes, aux personnes en état de coma. Dans un livre intitulé « Une larme m'a sauvée », la Strasbourgeoise raconte son expérience en juillet 2009. Prise de picotement, de fortes migraines, elle se rend à l'hôpital pensant rentrer chez elle le soir même. Ses symptômes, dus, on le découvrira plus tard, au syndrome très rare de Bickerstaff, s'aggravent, problème de respiration, son corps ne répond plus. On la place dans le coma, il doit durer 24 heures, il durera 12 jours. Pendant tout ce temps, aucun nerf, aucun muscle ne lui obéit, mais son esprit fonctionne, elle est consciente de tout. De passage à Rome, où son livre vient d'être traduit, Angèle Liéby a accepté de témoigner pour nous.
J'étais comme un arbre parce que l'arbre, il vit. On peut le couper, le trancher, mais jamais il pourra dire une parole. Et moi, j'étais comme ça. Voilà, j'avais l'impression d'être enfermée dans l'écorce et pourtant de vivre, d'avoir toute ma conscience, d'être là. Et pourtant, je remarquais au fur et à mesure que les gens parlaient à côté de moi comme si j'étais un meuble, comme si j'étais même plus là.
Personne n'a pris le temps de vous expliquer à côté de vous ce qui était en train de vous arriver?
Non. J'ai juste entendu une amie qui me disait « Angèle, même dans le coma, tu es belle ». Donc j'ai compris que j'étais dans le coma. Voilà, je me suis dit « il n'y a pas de souci, ils vont s'occuper de moi, je vais m'en sortir ». Mais j'entendais, elle a un problème au sinus. J'entendais, elle a 3 soins par jour. Oh, on va lui faire qu'un parce que de toute façon, elle va bientôt. Ils ont dit le mot clamsé, mais j'ai compris. Moi-même, je ne le dis même pas pour des animaux. J'ai compris ce que ça veut dire, que voilà, ça allait très très mal pour moi. Et donc ça, c'était douloureux. Une personne injectait la bétadine verte, 2/3 entière, parce que je sais tout. Hein, tout ça, c'est resté gravé dans ma mémoire. Des fois, elle disait, tu as déjà fait ce soin? Ah non, moi jamais. Ah, moi non plus. Donc je faisais de la tachycardie. Hein, c'est la seule chose que je pouvais faire. Les gens qui sont comme ça, inertes, on pense qu'on peut mettre des débutants pour s'occuper d'eux parce que forcément, ils ne sentent plus rien. Mais ça devrait être le contraire. Je voudrais justement qu'on mette les gens les plus perfectionnés pour s'occuper de ces gens, justement parce qu'on ne peut pas parler. Moi, j'ai senti toutes ces souffrances et on ne peut pas dire que tous les comateux ne sentent rien.
Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir comme ça, à faire face à toutes ces douleurs à la fois psychologiques et physiques?
Je pensais à ma mère qui disait, après la pluie, le beau temps, où elle disait des choses dans ce sens qu'il ne fallait jamais désespérer. Et moi, vraiment, je me suis dit, ce n'est pas possible, ils vont finir par voir que je suis vivante. Tous les jours, je pensais ça. Moi, je hurlais, je criais, je priais, je suppliais, je...
Vous aviez conscience de la présence de vos proches? C'était important,
oui,
pour vous?
Oui, très, 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 très important. Qu'ils parlent ou qu'ils ne parlent pas, c'est comme si je les voyais. Je pense qu'il y a quelque part une aura qui se développe, un peu comme les aveugles. On sent vraiment la bonté des gens, qu'ils voulaient vraiment que je revienne. C'est important, ça. C'est très, très important de savoir qu'on est aimé.
D'ailleurs, c'est grâce à votre fille que le personnel médical a finalement compris qu'il se passait quelque chose pour vous.
Oui, oui. D'abord, elle a dit, « Maman, je vais m'occuper de papa, t'inquiète pas. » Et ensuite, elle a dit, « Il faudrait quand même que tu te réveilles parce que, imagine-toi, si j'ai un troisième enfant, cet enfant connaîtrait même pas sa grand-mère, sa mamie. » Là, j'ai pleuré. Et elle savait ça. Elle savait que si là, je ne réagis pas, c'est que vraiment, j'entends rien et je comprends plus rien, quoi. Et après avoir dit ça, elle a vraiment vu que ça sortait et elle a dit, « Maman, elle nous entend. C'est... Elle est encore là. »
Quel serait aujourd'hui votre conseil au personnel médical ?
Que vraiment laisser un peu vivre les gens. Je ne suis pas non plus pour de laisser des gens des années et des années. Mais la petite flamme, il faut qu'elle grandisse, il faut quand même lui laisser le temps. J'ai mis 12 jours sans bouger quoi que ce soit déjà. Donc imaginez, au bout de 4 jours, ils ont envoyé mon mari faire les démarches.
On imagine que vous avez pensé à des sujets tels que l'euthanasie, l'acharnement thérapeutique. Est-ce que vous avez un point de vue sur ces questions-là?
Oui, j'avais très peur. J'avais très, très peur. Et en même temps, je me suis dit, c'est pas possible que je m'en sorte pas. Et j'ai quand même toujours gardé l'espoir. Je me suis dit, bon, aujourd'hui, ils n'ont pas vu, mais demain. Mais j'aurais pas voulu, voilà, qu'ils s'acharnent là-dessus, qu'on entend des fois des gens qui sont couchés 20 ans. Ou... Ça, non, je l'ai dit tous les jours à mon mari, tu aurais quand même accepté par amour d'arrêter. Pas parce que c'est une personne qui devient une charge. Mais c'est de dire, voilà, j'ai peut-être arrêté ces souffrances. C'est comme ça que j'aurais voulu que ça se fasse.
Angèle Liéby, l'auteur de « Une larme m'a sauvée ». En France, un rapport propose de faire de l'avortement un droit à part entière. Le Haut Conseil à l'égalité a remis au gouvernement de François Hollande 40 recommandations pour améliorer l'accès à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Xavier Sartre.
Le document suggère de supprimer dans la loi la notion de détresse des mères. Ainsi, de l'expression « la femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse » viendrait se substituer « la femme qui ne souhaite pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin de l'interrompre ». On passe de la détresse au souhait. « Ce n'est pas anodin », regrette le président du Centre catholique des médecins français interrogé par La Croix. Le rapport suggère par ailleurs de supprimer le délai de 7 jours de réflexion prévu aujourd'hui et de mettre fin dans le Code de santé publique à la formule qui garantit la clause de conscience des médecins, provoquant là encore l'inquiétude. Dans le quotidien catholique, la vice-présidente des associations familiales catholiques s'étonne enfin de l'absence de deux éléments majeurs. Dans ce document, explique Pascal Morinière, on évacue complètement le fait que l'avortement consiste à arrêter la vie d'un enfant à naître. De même, il n'est pas question des alternatives à l'IVG. Or, il y a libre choix quand il y a une alternative. En France, des structures accueillent ainsi les futures mères en difficulté. Les femmes enceintes peuvent également recourir à l'accouchement sous X.
Guerre et paix au troisième millénaire, c'est le thème de la conférence qui se tiendra ce vendredi à Rome, à la faculté pontificale théologique Saint Bonaventure. En partenariat avec Europa 2010, selon le président de ce centre d'études et de formation, le thème de cette année a été inspiré par la crise syrienne qui aurait pu avoir de graves conséquences sur le plan mondial, mais qui a connu un retournement, dit-il, décisif avec le fort appel du pape François, qui a culminé avec la veillée de prière pour la paix début septembre, prière à laquelle ont répondu les puissants du monde, de Poutine à Obama. Et soulignons, puisqu'on parle de la Russie et de son implication en Syrie, que le pape recevra le président russe Vladimir Poutine au Vatican le 25 novembre prochain. La dernière visite d'un président russe au Vatican remonte à février 2011. Dimitri Medvedev a été reçu par Benoît XVI par deux fois. Vladimir Poutine, lui aussi, avait été reçu par le pape émérite en 2007. L'établissement de relations diplomatiques pleines et entières entre le Saint-Siège et la Fédération de Russie remonte à décembre 2009. Les indigènes représentent 5% des habitants de la planète, 15% des pauvres. Pauvreté, ignorance, indifférence sont des mots souvent associés aux groupes indigènes présents de par le monde, les plus fortement touchés par les discriminations en termes de chances, de revenus, d'accès aux services de base. Et le phénomène s'aggrave lorsqu'il s'agit des femmes appartenant à ces groupes. Le thème a été largement traité au cours de la Conférence mondiale des femmes indigènes qui vient de s'achever à Lima, au Pérou. 200 femmes responsables de différentes ethnies ont lancé un appel au gouvernement afin qu'il soit mis fin à la discrimination et à la violence qu'elles subissent. Et parmi ces femmes, certaines venaient du Brésil. Il y a quelques jours s'achevait à Manaus la première rencontre des catholiques d'Amazonie, évêques, prêtres, religieux, missionnaires ou laïcs. Ils ont réaffirmé leur engagement auprès des indigènes qui vivent souvent déracinés de leur territoire d'origine. L'Église s'engage à former le personnel religieux, à renforcer le rôle des laïcs, la pastorale des jeunes, peut-on lire dans le document final publié à l'issue de cette rencontre. Je vous propose d'écouter le jésuite Thierry Linard de Guertéchin, démographe et théologien. Il revient sur les conséquences des migrations forcées des indigènes.
Le phénomène migratoire explique en bonne partie le changement de religion. Et l'émigration pour l'Amazonie, et plus c'est loin, plus les gens ont de fait abandonné la pratique de la vie catholique et sont passés en bonne partie, le premier groupe religieux qu'on trouve, c'est l'Assemblée de Dieu. L'Assemblée de Dieu, c'est un groupe pentecostal qui a commencé au début du XXe siècle, le fameux réveil protestant des États-Unis. Revenant en migration, ceux du Nord-Est migrent vers l'intérieur et ont été pratiquement abandonnés par l'Église institutionnelle. Dans les périphéries, la présence institutionnelle de l'Église catholique est pratiquement inexistante. Alors les gens, quand ils veulent retrouver un endroit de prier, ben ils vont là où ils trouvent un bâtiment, c'est l'Assemblée de Dieu. Et l'Assemblée de Dieu a une dynamique de construction très rapide, donc ils sont beaucoup plus présents que nous, catholiques, à la périphérie. À mon avis, ça c'est le gros facteur qui explique ce passage de catholiques à l'Assemblée de Dieu.
Et depuis quand le nombre de fidèles a-t-il commencé à diminuer?
Le nombre de catholiques a commencé à tomber, surtout à partir des années 60, 70. Les mouvements évangéliques ont augmenté profondément la dernière décade du XXe siècle. Et ce siècle-ci, l'Assemblée de Dieu continue à croître, mais certains groupes religieux ou certains sectes ont diminué.
Alors, que faut-il faire pour inverser cette tendance?
Il faut créer des communautés dans la périphérie. Ce matin, on parlait ici d'un document de 2007, 25 ans après le fameux document de Santarém de 1972-1972, où il parlait de la nécessité d'inculturer l'Église en Amazonie. C'est-à-dire vraiment créer des communautés avec des responsables de communautés, donc une hiérarchie qui vient de bas vers le haut. Mais ça ne s'est pas réalisé, et à mon avis, c'est un des facteurs qui explique un certain vide institutionnel de l'Église catholique jusqu'aujourd'hui. Ça repose la question d'un clergé autochtone. Ça veut dire repenser un peu le ministère sacerdotal. J'ai connu en République dominicaine, où il y avait des présidents de communautés élus, mais approuvés par l'évêque. Il y avait deux candidats, un jeune et un homme marié qui avait déjà des enfants. La communauté a voté pour l'homme marié en disant « Non, au moins on le connaît, on sait comment il élève ses enfants. Le jeune est très gentil, plein d'idéal, mais il doit encore faire ses preuves. » Mais évidemment, le président qui a été élu est un homme marié. À mon avis, l'Église va devoir affronter, s'il veut vraiment accompagner le peuple de Dieu, avoir des ministres adaptés au peuple de Dieu dans les secondes, donc c'est-à-dire des ministres mariés. Sinon, nous allons rester avec une Église, une grosse tête, mais des bras très faibles et des jambes encore plus faibles.
Et le pape est favorable à une implication plus importante des laïcs.
Effectivement, je crois que le pape François est conscient de ces problèmes que l'Église ne doit pas rester uniquement dans les centres, mais doit vraiment aller en périphérie. La périphérie devient le centre de l'Église. D'ailleurs, il y a déjà beaucoup de documents d'apparicide parlent déjà de conversion pastorale, conversion des structures. Donc ça suppose changement de structure et prioriser la périphérie. Au point de vue communauté aussi, je crois que le pape François a une vision de l'Église inspirée de Lumen Gentium, document du Concile de Vatican II, ou une Église beaucoup plus collégiale, plus participative, et ça à tous les niveaux. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est une réunion de l'ensemble des diocèses et des régions de l'Amazonie, donc plus de la moitié du territoire brésilien, mais c'est de donner une autonomie spécifique à des problèmes spécifiques. Mais ça ne fonctionne pas encore. Éventuellement, penser à ce qu'il faut dire à la conférence des évêques pour qu'ils prennent au sérieux des choses qui ont déjà été dites. Justement, la formation d'un clergé autochtone, repenser les communautés. Et ici, ça tombe à pic parce qu'au niveau de l'Église brésilienne, il y a un document qui va être rediscuté à la prochaine assemblée, paroisse, communauté de communauté. Mais il y a un espèce de billet qui a été opéré, c'est la paroisse qui organise les communautés, d'en haut par en bas. Et justement, tout l'effort, non, c'est d'en bas par en haut. Donc, à mon avis, il y a une tension ici intéressante. Et pour l'Amazonie, c'est important de se réunir d'en bas en haut, parce que d'en haut en bas, ça ne va jamais marcher.
Le père Thierry Linard de Guertéchin, jésuite, démographe et théologien interrogé par Christiana Meuret. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous sur notre site internet www.radiovaticana.va. Rendez-vous sinon demain, même lieu, même heure pour une nouvelle émission.